années sur l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous avons commencé il y a 6 mois avec les origines de cet orchestre. On était en 1856. Et puis petit à petit, eh bien, on a évolué dans les années vers la fin du 19e siècle. Et on a commencé sur le 20e siècle. Et on est arrivé maintenant à l'époque, on va dire l'époque moderne, dans laquelle il peut y avoir des témoins vivants de l'histoire de cet orchestre. Nous en avons 2 aujourd'hui, mais je pense que cette série de conférences et d'animations sur l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo suscite vraiment un grand intérêt et on la poursuivra, je pense, l'année prochaine avec les témoignages d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres musiciens. Il y a ici dans la salle un musicien qui représente l'orchestre, hein, de façon, c'est Julien Bourgeois, l'extraordinaire timbalier de notre orchestre. Je pense que vous avez remarqué, dimanche dernier en particulier, l'autorité avec laquelle il a lancé le concerto en fa de Gershwin. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a dans la salle également Cathy Malgherini, qui est la fille de celui qui a été pendant des années et des années le hautboïste soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Jean Large. Elle a plein d'histoires à nous raconter, plein de dessins, plein de souvenirs. Mais aujourd'hui, nous avons les deux invités que vous êtes venus écouter. Nous avons, on va commencer par la dame, hein, c'est normal. Nous avons Eliane Abrial, qui non seulement appartient à l'histoire de l'orchestre, mais qui incarne d'une certaine façon l'histoire de cet orchestre. Car, mesdames et messieurs, chers amis, elle a été en 1972 la première femme à être engagée de manière titulaire à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Qu'à 1972, parce que cela semble bizarre, mais en 1972, c'est-à-dire dans les années 60 et 70, les orchestres symphoniques monégasques, français, européens et mondiaux n'engageaient pas de femmes. Le fait d'engager des femmes à l'orchestre était un événement. Sachez que la première femme à l'Orchestre Philharmonique de Vienne n'a été engagée qu'en 1997, c'est-à-dire de manière très récente. De manière très récente. Alors maintenant, évidemment, les femmes sont très nombreuses à l'orchestre. Elles sont parfois majoritaires dans un certain nombre d'orchestres. Elles sont parfois au poste de violon solo de l'orchestre, comme c'est le cas à notre orchestre avec Lisa Kerob. Mais en 1970, c'était un événement et Eliane nous expliquera en quelles circonstances elle est arrivée. Pardon, je citais la présence de musiciens, mais je vois Jacques Perrod également dans la salle, pardon, je l'avais oublié, lui aussi, violoncelle solo de l'orchestre. Un jour aussi, il viendra sur cette scène nous raconter ses souvenirs, parce qu'il a des souvenirs extraordinaires. Et il a eu pour successeur, justement, une femme qui est sa propre fille, qui est violoncelliste soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Alors, donc, Eliane Abrial, et vous avez ici Philippe Binder, qui a été flûtiste à cet orchestre dans les années 1960, il est entré en 1963, donc il a fait 7 carrières de flûtiste, et sous la direction de chefs prestigieux, dont il va évoquer la mémoire tout à l'heure, mais par la suite, vous savez qu'il est devenu chef d'orchestre. Et chef d'orchestre, on a peut-être oublié, lorsqu'il a remporté le plus grand concours de chef d'orchestre au monde, qui est le concours de chef d'orchestre Dimitri Mitropoulos à New York, et ce qui a fait qu'il est devenu l'assistant de Leonard Bernstein et de Pierre Boulez, Philippe Binder. Alors, par ordre d'ancienneté, nous allons commencer avec Philippe Binder, puisque c'est lui qui a été engagé à cet orchestre dans les années 60, en 1963 exactement. Et ensuite, nous viendrons à Eliane Abrial, dont je vous ai dit qu'elle a été engagée en 1972. Mais nous remonterons quand même beaucoup plus loin dans l'histoire de l'orchestre, car Eliane Abrial était mariée à Jean Abrial, qui a été le hautboïste, l'un des hautboïstes historiques de cet orchestre, rentré dans cet orchestre à la fin des années 1920. Et donc, il y a des grands souvenirs. Et elle nous amènera des photos, elle nous apportera des témoignages de ces années glorieuses d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Cher Philippe, alors, vous êtes entré en 1963. En quelles circonstances ? Voilà.
Alors, d'abord, il y avait des concours de recrutement à Paris.
Oui.
C'est une époque où le plan Boulez n'avait pas encore commencé.
Oui.
Il n'y avait aucun orchestre très, très important et très oui. prestigieux en province.
Oui.
Et c'est seulement l'orchestre de Monte-Carlo
oui.
qui avait une notoriété, une réputation. Son chef était Louis Frémaux,
oui.
qui avait repris l'orchestre pour en faire un orchestre international. Et donc, il y avait des concours au Conservatoire de Paris. Et bon, j'ai été reçu au concours. Et j'ai été donc le collègue de M. Abrial et de Désert et de tout ça, qui était la mémoire de l'orchestre, effectivement. Et à l'époque de Frémaux, je pense que l'orchestre a commencé à devenir très, très important.
Mais ce que je n'ai pas compris, ce concours avait lieu
au Conservatoire de Paris.
D'accord, ce n'était pas un concours qui était organisé ici à Monaco.
Non, ça permettait aux candidats très importants qui n'avaient pas envie de,
oui.
de faire le voyage
oui.
sans être sûr d'être reçu, de se présenter.
Et là, vous étiez un lauréat du Conservatoire de Paris, élève de qui ?
Ah, oui. Ah ben j'étais élève de Rampal aussi, et de Gaston Crunel, et puis Aurèle Nicolet surtout.
Voilà.
Je n'étais pas le seul, j'étais dans toutes les disciplines.
Oui.
Les concours se passaient à Paris.
D'accord.
Sauf pour Yordanov, qu'on a copté plutôt que...
Yordanov qui a été le grand violoniste soliste de l'orchestre.
L'orchestre de Paris aussi.
Et l'orchestre de Paris après, oui, absolument. Oui.
Et tous les autres, parce qu'en fait, dans ces concours... Comme il n'y avait aucun orchestre ailleurs de très prestigieux, ceux qui arrivaient à Monaco, c'est ceux qui avaient fait deuxième au concours de recrutement de l'Opéra de Paris
oui.
ou de l'Orchestre National. C'était les deux orchestres, les deux postes les plus importants.
Oui,
à
parce
Paris
que c'est vrai, c'est une époque où il n'y avait pas de grands orchestres en France. Il y avait l'Orchestre de l'Opéra de Paris, il y avait l'Orchestre de la Radio peut-être.
Oui, le National.
Le National, c'est
tout. Il n'y avait même pas l'Orchestre de Paris encore.
Oui, bien sûr, il n'y avait pas l'Orchestre de Paris. Donc le grand orchestre prestigieux sur le territoire, c'était l'Orchestre de Monaco.
Ah oui, internationalement.
Internationalement, absolument, oui. Et donc, vous êtes arrivé jeune musicien.
Ah oui, oui.
Et vous vous souvenez de votre premier concert à Monaco ?
Oui, oui, bien sûr.
Alors, c'était quoi ?
Ah ben, c'était un concert avec Louis Frémaux.
Oui.
Et je ne me rappelle plus le soliste. Il me semble que c'était Daniel Weyenberg.
Oui, un grand pianiste de l'époque.
Et
oui.
Il y avait du Gershwin, je me rappelle. Bon.
Oui.
Mais bon, c'était à la salle...
Salle Garnier. Oui, oui parce qu'il n'y avait pas l'auditorium à cette époque-là, bien sûr.
Et il y avait un public très mélomane, hein, vraiment oui. Très, très, très bien.
Ah ben toujours, hein, il y avait toujours un public mélomane à Monaco.
Mais la jauge était petite, c'était facile de remplir la salle d'une certaine manière,
oui,
alors
oui.
qu'aujourd'hui, évidemment.
Oui.
Mais l'orchestre commençait à avoir une certaine homogénéité.
Oui.
Et ça présumait vraiment une carrière formidable.
Oh, bien sûr. Alors, à la fois à Monaco, puis en tournée. Hein, et puis, vous avez fait des enregistrements. Alors, par exemple, des enregistrements. Vous avez participé à des enregistrements.
Alors, du temps de Frémaux, il y a un enregistrement qui est très, très amusant à raconter.
Oui.
Il était question d'abord, on enregistrait la salle Alcazar. C'était
oui.
à Beau-Soleil. C'était oui. une salle qui était formidable, qui avait une acoustique formidable, qui a été détruite.
Oui.
Ils ont construit autre chose. Et là, on faisait un jour un enregistrement avec Samson François, concerto
oui.
de Chopin.
Et ah ben on connaît cet enregistrement de Samson François
oui.
avec l'orchestre. C'était
65.
Il reste dans les mémoires. C'était un grand enregistrement des concertos de Chopin.
En 65.
Oui. Et alors ?
Et il y avait deux services de prévus pour deux concertos.
Oui.
Et c'était l'après-midi à 15h et le soir à 20h. Et puis, on a commencé à 15h, et puis vers 16h, Samson François a dit, c'est pas mon temps, là, je me sens pas bien, je ne peux pas bien jouer à cette heure-là. Il sort, et puis il va voir, je ne sais pas qui, de Klopfenstein ou Garcin dans la cabine, et dit, moi, je ne peux pas continuer. Là. Il faut
ah oui, parce que c'est un homme de la nuit, Samson
voilà,
François.
Il faut que j'enregistre cette nuit.
Une fois qu'il a bien bu, une fois qu'il est allé au bar, c'est un homme de la nuit. Voilà.
Et alors, l'orchestre s'est un petit peu agité, mais très gentiment, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, au bout d'une demi-heure, Frémaux est venu dire, voilà, écoutez, on doit être fiers de faire cet enregistrement, pour nous, c'est très prestigieux, mais il va falloir changer les horaires. Mais les, quand ? Ben aujourd'hui. Actuellement, c'est impossible de faire ça. Oui. Et donc, il dit, voilà, on va vous redonner un rendez-vous pour ce soir. On va faire un service ce soir. Ah oui, à 20h alors. Ah non, non, 22h30. Et voilà, et tout le monde, il y a eu un vote... La quasi-unanimité de l'orchestre a voté pour poursuivre l'enregistrement. Et ça s'est fait. Et c'est vrai que Samson François était beaucoup plus inspiré, beaucoup plus libre à cette heure-là.
Et donc, cet enregistrement, qui est quand même une référence dans nos discothèques, je suis sûr que beaucoup ont cet enregistrement de l'orchestre Philharmonie de Monte Carlo avec Samson François, il a donc été enregistré la nuit.
À partir de 22h30.
Ah oui.
Et on a terminé à 12h30, mais enfin, on est revenu le lendemain à 20h. Mais on a fait un concerto, en tous les cas, de 22h30 à minuit 30.
Voilà.
Et il y avait, à l'époque, je me rappelle, c'est comme un jeune pianiste que j'ai connu, qu'on a tous connu très bien après, c'était Bruno Rigouteau qui travaillait avec lui.
Ah oui, c'était son élève unique.
Oui, oui, il était là, et il habitait à Menton, il était dans un hôtel à Menton, et lui, il était... J'espère que l'enregistrement va avoir lieu. Il est venu me voir. Je ne le connaissais pas. Hein.
Ouais.
Mais comme j'étais dans les jeunes, il est venu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez... Voilà.
Puis après, Et c'est vrai, parce que vous étiez un des Benjamin, peut-être même le plus jeune musicien de l'orchestre à cette époque-là.
À cette époque, j'étais le plus jeune. Ouais. Loridon, non. Jean Desplaces, non. Lucien Kieblinski, à peu près le même âge.
Ouais.
Il y avait des musiciens formidables. Lucien Kieblinski, par exemple, qui est rentré.
Oui. Il a été pianiste. Oui.
Il était pianiste et percussionniste à l'orchestre. Oui. Il a été pris à l'Opéra de Paris. Vraiment, c'était à l'époque, c'était la place la plus prestigieuse en France.
Oui.
Alors, il a réfléchi. Il a dit à sa famille, bon, on va voir. Il est revenu. Il avait une maison qui donnait sur la mer, comme ça. Sinon, je ne veux pas partir. Je vais rester. Il a refusé l'Opéra de Paris. Il n'y a personne qui aurait fait ça. Quoi.
Si, quand même, Monaco, c'était bien. Et puis, a été ce pianiste remarquable qu'on a connu. Tous ces noms que vous évoquez, là, nous rappellent des souvenirs, bien sûr. Il y a donc les enregistrements. Il y avait les tournées aussi. Alors, vous avez participé à des tournées.
Alors,
ça, c'est plus tard, peut-être.
C'est un petit peu plus tard. C'est-à-dire que Frémaux est parti. Il a eu un contrat qui n'a pas été renouvelé.
Oui.
Et il y a eu un laps de temps pendant lequel tous les chefs invités, qui avaient été invités par le manager de l'orchestre qui s'appelait M. Germain, qui était un ancien pianiste belge, mais qui avait fait une petite carrière, et qui, lui, engageait des chefs et des solistes, évidemment, faisait le directeur artistique pendant le temps où il n'y avait pas de chef, engageait des chefs qui, tous, candidataient pour la place. Il y avait Fournet, tout ça. Et, entre autres, il y en a un qui s'appelait Dimitri Korafas.
Ah, le grand chef d'orchestre grec.
Absolument. Et très ami avec Louben Yordanov, parce qu'il avait fait le conservatoire de Paris chez Bouillon ensemble. Oui. Et c'est lui qui avait le plus grand succès avec les musiciens.
Ah oui, d'accord.
Et on a fait deux, trois...
Et on connaît l'importance du choix des musiciens dans la nomination du futur directeur.
Ah ben bien sûr. Ben,
c'est une question qui se pose maintenant, d'ailleurs. Hein, c'est une question qui est d'actualité, puisque nous avons changé de chef d'orchestre après Kazuki Yamada. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, Yordanov, que je connaissais un peu, puis il m'invitait chez lui, tout ça. Bon, il a choisi un certain nombre de musiciens, puis il a dit, on va aller voir Onassis. Pour le
Ah, carrément. Parce qu'il était grec.
Non, mais Onassis avait un pouvoir énorme. Il était je sais pas si... Je connais pas les détails administratifs ni économiques de sa position, mais je crois qu'il avait 50% des parts à la SBM ou je sais pas où.
Enfin, oui, bien entendu, absolument.
Et donc, il était très important.
Il était avec la Callas à ce moment-là,
peut-être. Je pense pas.
C'est après.
Et on est allé le voir. Il y avait Loridon, Jean Desplaces... Georges Désert, qui était le hautbois solo
de
l'orchestre. On était 4-5 musiciens, et Yordanov, et il y avait Dubreuil aussi, l'alto solo. Et donc, on est allé voir Onassis, qui nous a reçus assez froidement, dans un bureau, dans l'atrium, là derrière l'atrium. Et alors, Yordanov a dit, vous savez, c'est très important. Dimitri Korafas a un succès formidable. Je pense que l'orchestre va encore plus progresser avec lui. Oui. Il va renouveler le répertoire, etc. C'est quelqu'un que je connais. Et alors, il a fait un moment de silence comme ça. Il dit, vous n'allez pas encore m'amener un grec à Monaco quand même.
Et c'est comme ça que Dimitri Korafas n'a pas été nommé. Alors, qu'est-ce qui a été nommé?
Alors, après, il n'y a pas eu de chef pendant quelques temps. Il y avait un chef qui s'appelait Van Remortel.
Ah oui, oui.
Et dont la femme avait été élevée avec la princesse.
Ah, ça c'est important. Ça.
Et donc, elles étaient très amies. Et c'est un bon chef. Il y avait une partie de l'orchestre. Voilà,
puis un beau gosse. Hein. Édouard Van Remortel.
Et alors, lui n'était pas titulaire véritablement, mais oui. Il avait un pouvoir. Tout le monde avait peur parce que sa femme était très amie avec la princesse.
Ah, ça c'est important.
Mais il a fait un bon boulot, je trouve. Par contre, quand il y avait des concerts très importants ou des tournées très importantes, oui. C'était Paul Paré qui les faisait. Et notamment voilà. Cette tournée aux États-Unis, c'est en 66, je crois.
Alors justement, vous allez parler de Paul Paré, qui avait été le directeur de l'orchestre dans les années 20. Hein. Paul Paré était déjà très, très âgé à ce moment-là. Et Paul Paré, ensuite, avait été, pendant la guerre, directeur des concerts Colonne à Paris, et dont il avait donné sa démission parce qu'il y avait des lois anti-juives. On avait même débaptisé les orchestres du Concert Colonne. Après, il avait été replié sur Marseille, je crois. Et puis, il est arrivé ici à Monaco, où on était pendant la période de la guerre, où il avait engagé beaucoup de musiciens juifs pour les protéger. Et ensuite, la guerre était passée. Et donc, il était revenu dans les années 70. Là,
70, c'est déjà Markevitch.
D'accord. Ben alors, dans les années 60.
Donc, dans les années 60.
À la fin des années 60.
C'était 65 ou 66. Voilà. Avec Frémaux, j'ai fait un an et demi, deux ans.
D'accord. Alors, je crois qu'on a des photos de Paul Paré.
Ah oui, pardon. Oui, d'accord. Non, si vous voulez, Paul Paré, c'était la superstar.
On a une photo de Paul Paré.
Vous saviez, il y avait trois grands chefs français qui ont fait une carrière aux États-Unis, parce que c'était le critère pour être international. Oui. C'était Charles Munch, Pierre Monteux et Paul Paré. Oui. C'était les trois. Ils ont tous eu un orchestre aux États-Unis. Tout le monde le sait, hein, Munch à Boston, Montreux à Philadelphie, non pas Philadelphie, à Chicago, et puis Paul Paré à Détroit. Paré, quand il revenait là, il était très copain déjà avec le prince Pierre. Oui. Et avec le prince Régnier III aussi, c'était vraiment. On peut dire qu'on se demandait s'il appartenait pas à la famille presque. Il était considéré vraiment comme quelqu'un. Il avait sauvé beaucoup de musiciens juifs. Oui. Et de musiciens résistants italiens aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a fait rentrer dans l'orchestre des musiciens italiens. Et puis à Marseille, il a fait venir un tas de musiciens juifs. C'était quelqu'un d'extrêmement courageux, extrêmement respectable. Oui. Prix de Rome, enfin tout ça, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Oui.
Et donc, vous avez fait des tournées avec lui, en particulier cette fameuse tournée historique en Amérique. Racontez-nous ça.
Alors, on est parti, c'était la première fois que l'orchestre, et peut-être même, il y avait le National avait fait une tournée aux États-Unis, mais les orchestres français, pas tellement. Oui. L'orchestre de Monte-Carlo, c'était le premier qui couvrait autant de toute la côte Est, plus la Californie, tout ça, enfin Miami aussi, on a fait une tournée complète. Et il y a un musicien qui s'est fait tuer, un contrebassiste à Miami. Et donc, quand on est revenu...
C'était un contrebassiste.
Un contrebassiste, oui.
L'orchestre philharmonique, je me souviens de ça, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, qui ne s'appelait pas philharmonique d'ailleurs à cette époque-là.
Non, c'est l'orchestre de l'opéra.
C'est l'orchestre d'opéra ou l'orchestre national de l'opéra, est revenu sans un musicien. Oui. C'était en quelles circonstances que ça s'est passé?
Alors, c'est un peu délicat de le raconter, mais je pense qu'il a rencontré une femme dans un bar, qu'il a cru qu'il l'avait séduit. C'était une prostituée.
D'accord.
Il n'a pas voulu payer après et il s'est fait tuer. Voilà.
Alors, Aliane, allez-y. Au micro. Voilà. Les femmes sont toujours au courant de ce genre d'histoire.
Alors, vous parlez directement, je crois que c'est bon.
Il est ouvert.
Oui, ouais, c'est bon. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, c'est l'opinion.
Et est-ce que vous faisiez partie de cette tournée?
Non, pas du tout.
Oui, on était dans les années 60, oui.
Et ça s'était passé à New York, parce qu'il est allé, ce contrebassiste est allé se promener dans Harlem.
Non, c'est pas ça.
Moi, c'était ma version. Est-ce qu'on
c'est à Miami qui s'est fait tuer. Ouais.
Miami, New York, déjà sur la géographie, vous n'êtes pas d'accord.
Mais bon,
d'accord.
Tout simplement.
Et il serait allé alors.
Ben, il a dû être à cette époque-là. Il ne fallait pas s'aventurer en tant que homme blanc. Et donc, il a dû avoir une histoire avec une prostituée. Prostituée, probablement, mais...
Non, c'est à Miami, ça, c'est sûr.
Ah, bah,
on l'a vu avec sa famille.
Écoutez, nous enquêterons, et comme l'histoire de cette séance va continuer l'année prochaine, vous aurez le résultat. Vous aurez le résultat. Ouais, excellent. Et alors, c'est Paul Paré qui, je pense, un jour vous a dit, ben, voilà, tu dois devenir chef d'orchestre.
Alors, quand on est rentré, on a fait une messe à Peille, avec un orchestre de chambre que j'ai dirigé, c'est Jordanov qui m'a demandé de le faire, avec 12 ou 15 musiciens, dans une chapelle à Peille, dans une maison de troisième âge ou un truc comme ça. On a fait ce concert, Paul Paré est venu à la messe, et avec d'autres mondes, je ne sais pas s'il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas un prince. Mais... Et à la fin, il m'a vu diriger, il m'a dit, écoutez, vous êtes vraiment doué, il faut faire ça, moi je vous prends en charge si vous voulez, je vous prépare. Ouais. Et il m'a préparé pour le concours de Besançon, où je suis arrivé en finale, j'ai eu un prix, pas le premier. Et puis après, alors, j'ai eu un prix à Besançon, je suis rentré, et Tibor Katana, qui était le directeur de l'orchestre, m'appelle et me dit, bon, vous allez diriger un concert. Alors, 8 jours après, je vais prendre une leçon chez Paré, il me dit, voilà, je dois diriger. Quoi ? Diriger, mais vous n'êtes pas prêt du tout. Il téléphone à Katona, il ne dirigera pas ce concert. Hein.
D'accord.
Il n'est pas prêt. Voilà. Et je dois dire aussi qu'il y avait dans l'orchestre René Croisy, qui était corniste.
Oui.
Et c'était un très bon corniste, René Croisy.
Qui viendra l'année prochaine nous parler de ses souvenirs aussi. Oui.
Et il a fait la tournée aux États-Unis avec nous, évidemment, en tant que musicien.
Lui, il nous dira peut-être sa version.
Ah oui, oui. Non, je pense que c'est la même que la mienne, parce qu'on a...
On verra.
Mais oui.
On verra.
Mais il est resté musicien d'orchestre jusqu'à... Presque jusqu'à l'arrivée de Markevitch, je pense. Après, il est devenu assistant de Tibor Katana.
Donc, Paul Paré vous a incité à vous présenter au concours Mitropoulos à New York, qui, je le répète, est le plus grand concours de chef d'orchestre au monde. Et donc, vous avez gagné.
Oui.
On était fiers. Un musicien français, un chef d'orchestre français qui gagne à New York, c'est d'accord. Et donc, vous êtes revenu en héros. Hein.
Voilà.
Et après, c'est là que Markevitch est arrivé.
Alors, Markevitch était quand j'ai passé le Mitropoulos, c'était Markevitch qui était directeur. D'accord. Alors, quand je suis rentré, il est venu me chercher à l'aéroport. Et pourtant, je n'étais pas son élève. Ouais. Mais je pense qu'il... Il a partagé son concert. Ouais. C'était l'année Beethoven. C'était en 1970.
Ouais.
Et il y avait un festival Beethoven qui se faisait à la cathédrale parce que l'archevêque était très mélomane. Et, voilà. Ouais. Et donc, il y avait un concert où il devait diriger deux symphonies, la cinquième et la septième. Ouais. Et il m'a dit... Bon, tu feras la septième, voilà.
On a une affiche où il y a chef d'orchestre Igor Markevitch, Philippe Bender. Ouais.
Markevitch, je l'avais connu depuis longtemps. Enfin, je le connaissais pas, j'avais aucune proximité avec lui, ni intimité. Mais je faisais des remplacements dans l'orchestre suisse du Festival de Lucerne. J'avais fait un remplacement dans le Sacre du Printemps, quatrième flûte ou je sais pas. Et comme j'étais très très jeune. À un entracte, il est venu me voir. J'étais avec mon professeur, pareil. Il m'a présenté, Philippe Bender. Et je dois dire que c'était. Alors, il y a un tas de mensonges sur ces choses-là, mais Markevitch a été le premier qui a dirigé le Sacre par cœur. Et à cette occasion-là, au Festival de Lucerne.
Oui, absolument.
Et on dit que Furtwängler le dirigeait par cœur, mais c'est pas vrai. Furtwängler était formidable. Le problème n'est pas là.
Oui.
Mais et là, c'était tout le monde était impressionné, vraiment.
Ouais, oui, non, absolument.
C'était pas habituel.
Chef d'orchestre extraordinaire. Ouais. Et on va terminer là parce que je vois que le temps passe, mais oui. Je pense que vous reviendrez. Il y a plein d'histoires à raconter. Vous êtes passionnant. Et puis Eliane aussi a des choses à nous raconter. Non. Donc on va s'attarder. Alors allons-y.
Sur Markevitch, il y a une autre chose, c'est que. Il a, pendant son temps, chaque fois qu'il arrivait, il avait des projets formidables et l'orchestre a gagné en notoriété d'une façon incroyable. Mais il a réussi, pendant les cinq ans qu'il était là, ou tout ça, à faire que les vacances d'été étaient décalées. C'est-à-dire, pour qu'il fasse son cours de direction d'orchestre, il avait mis... il avait supprimé
les... Je me souviens parce qu'il était à son cours de direction d'orchestre.
Il avait supprimé les vacances.
Oui, je me souviens.
Il les avait reculées en octobre. Alors évidemment, les gens qui avaient des enfants, ça ne les arrangeait pas. Mais tout le monde a fini par l'accepter. C'est incroyable.
Parce que c'était une autorité tellement importante, Igor Markevitch. On va terminer en rappelant et en disant que lorsque vous avez été chef d'orchestre à New York, vous avez été donc assistant de Leonard Bernstein, vous avez été assistant de Pierre Boulez, et vous avez même dirigé un concert où Leonard Bernstein était au piano.
Oui.
C'est extraordinaire.
C'est-à-dire, ce n'est pas le concert, j'ai dirigé la répétition.
Ah.
Oui.
Mais c'est quand même extraordinaire.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé à Washington, le New York Philharmonic était en tournée, et Bernstein dirigeait les trois extraits de Berlioz, de Roméo et Juliette. Oui. Ensuite, il jouait le concerto en sol, sans chef, et ensuite la Fantastique. Et le final se décalait de plus en plus. Et on arrive à Washington, tout le monde disait que, enfin, on avertit Bernstein que Nixon allait venir au concert avec des gens. Voilà. Alors, il m'a fait chercher par une Jeep dans un hôtel. Et Washington était plein de mégots, de tout ça. Les anciens combattants étaient venus devant le mémorial, avaient fait des manifestations contre la guerre au Vietnam. Tout ça, c'était une situation terrible. Et Bernstein me convoquait dans l'hôtel. Il me dit. Il faut que tu m'accompagnes le concerto en sol de Ravel. Alors, je dis, moi, je ne suis pas prêt avec vous. Oui, oui. Alors, on va répéter cet après-midi, là, à 5 heures. Alors, j'ai répété. Oui. Je l'ai accompagné pendant la répétition. Et puis, le soir, on a appris que c'était pas Nixon, mais Kissinger qui venait. Alors, il a dit, oh, pour Kissinger, si ce n'est pas très en place, ce n'est pas très grave.
Écoutez, Philippe, vous reviendrez parce que vous avez plein d'histoires à nous raconter. Vous avez été passionnant. On vous remercie vraiment. On vous félicite. Parce que je vois que le temps. Vous pouvez continuer à intervenir, bien entendu, parce que ce que Eliane va nous raconter, vous l'avez vécu partiellement. Alors,
allez-y. Un tout petit détail à propos de Markevitch. Oui. Moi, j'assistais à ses cours de chef d'orchestre et il était dans la salle. Et je le vois venir de son fauteuil et s'approcher d'un chef, et lui, d'un jeune chef, un étudiant, et qui lui prend les chevilles et qui les colle l'une contre l'autre pour montrer qu'il ne fallait pas avoir de faire des vagues comme font les chefs.
Ah, ben oui, ben ça,
c'était l'époque.
Il m'a calmé. Ben oui, de toute façon, j'ai suivi ses cours. Oui. Igor Markevitch estimait qu'il y avait une seule façon de diriger. Il fallait diriger dans un cercle, etc. Il a voulu codifier l'art de la direction d'orchestre, ce qui est un peu douteux d'ailleurs, hein, parce que chaque chef dirige à sa façon. Lui, il voulait imposer sa façon à lui. Je pense que c'est pas évident. Cela étant, c'était un maître extraordinaire. Et lors de ses concerts, lors de ses cours d'été, effectivement, il avait dirigé, ou un petit peu avant, le Sacre du Printemps par cœur. Ce qui était une chose extraordinaire. Et il nous imposait d'apprendre le Sacre du Printemps par cœur, absolument. Mais pas forcément pour le diriger, pour être en cours uniquement. Chère Eliane, alors, vous, en 1972, vous avez été engagée. Alors, en quelles circonstances, racontez-nous comment vous avez été amenée à postuler pour cet orchestre. Vous étiez jeune musicienne, voilà. Alors, allez-y.
Eh bien, j'ai été...
Au micro.
J'ai été poussé par mon professeur,
oui,
qui m'a dit que c'était le moment de passer un concours.
Alors, parce que vous aviez été étudiante, en violoncelle, ou ça au conservatoire, à l'école normale de Paris, je crois.
Oui, je suis passée par l'école normale, oui.
Oui. Et donc lauréate de l'école normale, voilà. Et votre professeur, vous avez dit, il y a un poste à Monaco.
Il y a un poste à Monaco, et ce professeur, il était professeur de musique de chambre à l'époque,
oui,
à l'Académie de musique.
Oui.
Et donc, il m'a conseillé de passer des concours pour apprendre, oui, le métier.
Alors, parce que vous étiez étudiante à Paris, mais vous étiez venue ici dans la région, dans des circonstances un petit peu particulières, dans un job d'été, je crois.
Voilà, c'est pour, j'ai pris le journal Le Figaro,
oui,
j'ai regardé les petites annonces et j'ai trouvé un poste qui me semblait adéquat pour que je puisse à la fois étudier mon violoncelle et puis tenir. J'étais gardienne d'une villa.
Voilà.
Voilà.
Ah, mais parce que pour qu'on comprenne.
À Rocroin Cap Martin.
C'est en tant que gardienne de villa, voilà, pour comme un job d'étudiante,
voilà,
que vous êtes venue sur la Côte d'Azur et là vous avez fréquenté l'Académie de musique de Monaco,
voilà,
pour continuer à progresser.
Voilà. Ah. J'ai travaillé avec Jean Deplace, justement.
Oui.
Et donc.
Et donc ce professeur vous a dit. Il y a un poste à l'orchestre, il y a un concours ouvert, tu t'y présentes.
Voilà.
Mais les femmes étaient autorisées à ce moment-là ou... Parce que c'était audacieux, en fait.
Oui.
Que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y avait encore aucune femme qui avait été officiellement engagée.
Oui, oui. Eh bien, justement, là, c'était l'occasion.
C'était la première fois.
C'était la première fois,
la première fois.
Puisque Jean Abrial avait une excellente réputation.
Oui.
Et probablement, c'est lui qui a,
voilà,
proposé que ses élèves passent le concours.
Parce que ce que vous n'avez pas raconté là, ici, c'est que ce professeur de musique de chambre était Jean Abrial et deviendrait votre mari.
Mon futur mari, voilà.
Voilà, alors c'est important de comprendre. Donc il s'était évidemment engagé, il était très influent dans l'orchestre de Monte Carlo, donc c'est lui qui avait imposé qu'on puisse prendre une femme.
En tout cas, ouvrir le concours.
Ouvrir le concours.
Aux deux sexes.
Parce qu'à cette époque-là, on voyait des annonces, concours réservés uniquement aux hommes, c'est ça?
C'est arrivé, oui, pour un concours de corps réservé, oui, aux candidats masculins.
Ah, vous imaginez?
Eh oui, sur l'affiche.
Sur l'affiche, oui.
Mais on s'est révoltés, nous étions à peu près 7 femmes.
Ah oui,
on
ça c'est par la suite.
On,
oui,
a fait une pétition. Et
ah d'accord, oui,
oui. Beaucoup d'hommes ont coopéré.
Oui.
Et du coup, ça, on a enlevé le.
Donc, vous avez été engagée. Et vous vous souvenez de votre premier concert?
Oh, bien sûr, c'était...
Alors, c'était quel chef d'orchestre? Markevitch,
peut-être? Mais l'œuvre, oui, ça devait être... oui, le titulaire à cette époque-là, c'était Markevitch.
Markevitch, dont on vient de parler, absolument, oui.
Mais il y avait aussi des chefs invités, quand même.
Oui, d'accord. Mais votre premier concert, qu'est-ce que vous avez joué?
C'est ça dont je me souviens, c'était tellement une merveille. Ben, j'ai eu cette chance de jouer le... Ravel,
Daphnis et Chloé,
oui, qui m'a complètement ébloui.
Ah, oui, bien
ça, c'est
entendu.
Un souvenir absolument.
C'était peut-être pas pareil.
Parce que c'était son répertoire.
Oui, c'était peut-être Paul Paré.
C'était peut-être Paul Paré.
Oui,
parce qu'il dirigeait régulièrement aussi.
Oui, voilà, voilà.
Ah bah oui, c'était un grand chef.
C'était son répertoire.
Française. Oui, absolument. Absolument. Alors donc, on va parler de votre carrière, mais vous avez évoqué votre mari et nous allons commencer par parler de lui parce que ça nous ramène des années et des années avant, dans l'histoire de cet orchestre. Et votre mari avait été engagé en quelle année à l'orchestre?
En 1935.
Et je crois que nous avons... Ben voilà, nous avons des contrats d'engagement où il gagnait, je crois, 50 francs. Enfin, je sais pas.
Oui, les tout premiers engagements, à ce moment-là, c'était un orchestre du casino.
Oui.
C'était même pas encore l'orchestre de l'opéra.
Oui.
Et donc, le premier fiche de paye, c'était 65 francs.
Ah oui, d'accord. Oui,
voilà.
Oui, ça
après, ça a été 150 francs.
Oui.
Après, petit à petit, ça a augmenté. Et... Oui.
J'ai vu. Alors, je ne sais pas si on l'a ici, mais j'ai vu sur un des documents que vous avez envoyé, il y avait même 50 francs par mois.
Ah oui.
Bon, c'est... Et donc, votre mari a été le hautboiste.
à ce moment-là, donc, il était à la fois à l'orchestre de Monaco, mais au Palais de la Méditerranée, vous
voilà,
m'avez expliqué.
Il faisait des saisons, on appelle ça.
Les saisons d'hiver.
Voilà, un peu partout d'ailleurs.
Oui, oui.
Et donc, dont Monaco, c'était un orchestre saisonnier aussi, avant de venir au Caisse de l'Opéra.
Bien sûr, bien sûr. Et là, il avait été, comment dirais-je, il était un petit peu, si j'ai bien compris, un petit peu un représentant des musiciens, parce qu'il avait vraiment une espèce d'autorité.
Il avait une aura, oui, parce qu'il était reconnu comme excellent musicien.
C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un certain nombre
de... Vous avez connu Jean Brial,
alors,
oui.
Je pense que tous les chefs disaient que, comme cor anglais, ils n'avaient jamais entendu quelque chose d'aussi sublime.
Oui, parce qu'il était au bois et cor anglais.
Et cor anglais. Oui. Et franchement, et c'est vrai qu'il avait une très grande musicalité, il jouait très bien de son instrument, mais en plus, une très grande musicalité. Et tous les chefs, chaque fois qu'il y avait un solo, je me rappelle, quand on a fait la tournée aux États-Unis, il y avait l'air de Marguerite de Berlioz, de Faust. Et le pam, pam, pam. Et là, tout le monde disait... Écouter un Brial et tout ça, c'est
vrai.
En quelques mesures, il arrivait à vous donner le frisson, véritablement. C'était quelqu'un de vraiment musicalement au-dessus des autres, c'est sûr.
C'est voilà. Pourquoi, excusez-moi, mais oui. Donc c'est pourquoi il a été appelé par le gouvernement princier pour donner son avis sur les chefs d'orchestre avant de partir en tournée aux États-Unis.
Ah,
on lui a demandé son avis.
Ah, oui, d'accord.
Donc il a dû habilement dire un tel ou un tel. Et donc il y avait
Paré. Ah bon?
Oui, oui, oui.
Tu es sûr de ça?
Ben, bien sûr, je l'ai écrit dans mon... Mais bien sûr que je suis sûr.
Parce mais que comment... Paré, c'était évident depuis des années.
Oui, mais...
Ah, ben voilà, Jean Brial avait quand même donné son avis.
Mais il est effectivement parti pour le Paré avec...
Oui, non, mais je veux dire, ça se passait entre bureaux de concert, là.
Je sais pas, mais je t'assure, c'est...
Surtout que Paré était... C'était le chef d'orchestre des princes.
Oui, mais ça n'empêche pas. Ils ont pris toutes les précautions possibles, quoi.
Et donc, ben, la vie de l'orchestre a évolué entre 1930 et l'époque moderne, l'époque contemporaine. Est-ce que vous avez, parce que je sais que vous avez écrit la vie de votre mari, c'est-à-dire un document que nous avons qui peut circuler, qu'on va peut-être éditer, hein, parce que c'est quand même tout à fait passionnant. Est-ce que vous avez en mémoire quelques événements un petit peu particuliers dans sa... dans la carrière de votre mari avant de venir à vous.
Avant, oui. Ouais. Il a été adulé partout où il est passé. On disait que son talent n'avait rien à envier aux solistes des plus grands orchestres américains.
Oui, oui, oui. Mais j'ai vu des critiques dans lesquelles on parlait justement des solos de Jean Brial.
Mais oui. Et il a bénéficier aussi de l'amitié entre Paul Tortelier et lui. Ils étaient de même goût musical, extrêmement raffiné.
Alors, Paul Tortelier, je pense qu'il faut en parler. Effectivement, Paul Tortelier, le grand violoncelliste dont on a peut-être oublié qu'il a été le violoncelliste soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Enfin, je dis toujours Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
L'Orchestre de l'Opéra
à cette époque-là, dans les années...
En 1935.
Dans les années 1930.
Une année totale.
Oui. Et avec sa femme. Et je crois que nous avons... Je ne sais pas si Valérie a ce tableau, le tableau dans lequel nous avons... pas Paul Tortelier, mais Maud Tortelier.
Maud de la femme.
Sa femme et vous-même.
Voilà, qui
voilà, avait... voilà, regardez, nous avons... Vous pouvez nous commenter ce tableau, Eliane, parce que vous êtes là, superbe, à gauche.
Ben, écoutez...
Et il y a Maud au centre.
Il y a Maud au centre, oui.
Oui. Et qu'est-ce qui a réalisé ce tableau et en quelles circonstances?
Alors, c'est un peintre russe qui s'appelle Georgi Chichkine.
Oui.
Et qui a été lui-même primé par la principauté quand il a fait ses timbres rouges et verts.
Ah d'accord.
Ce profil du prince.
Ah oui d'accord, c'est lui qui a réalisé.
C'est lui qui a été primé. Oui.
Et donc il a réalisé un tableau de vous.
Voilà.
Avec Maud Tortelier.
Qui était mon professeur. Donc.
Je voudrais dire quelque chose sur
Paul Tortelier. Et qui habitait à ce moment-là à la villa au-dessus de Nice.
Oui. Au Montboron.
Au Montboron.
Je l'ai connu là-bas aussi.
Voilà, voilà. Oui. Où habitait toute la famille.
Oui, tu voulais dire quelque chose sur Paul Tortelier.
Oui, alors les Tortelier, je les ai aussi très, 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 très bien connus et fréquentés très, très souvent. Et Paul Tortelier, il ne faut pas oublier qu'il est, à un moment, il a fait une crise spirituelle et il est parti en Israël pendant un an dans un kibbutz. un an et demi. Et c'est sa femme, c'est Maude, qui est allée le rechercher. Autrement, il serait resté. Et moi, je l'ai visité quand il était dans ce kibbutz. Et je ne me rappelle plus le nom, c'est le kibbutz qui a été le premier attaqué le 5 octobre, là, qui était sur le, tout près de Gaza. Et je suis allé le voir, là, dans ce kibbutz. Et c'était incroyable parce que il était ça. Ah oui, il a fait un an dans un kibbutz. Alors là, c'est sûr.
Je peux me permettre, Philippe ?
Oui.
Oui, il est allé, mais il est parti avec Maude et sa fille Pomone.
Non, mais
elle avait 5 ans.
Oui, mais ils ne sont pas restés un an. Oui, lui, il est resté un an.
Ils sont partis ensemble.
Oui, quand il est parti en Israël, il est parti, mais eux, ils sont revenus.
Oui.
Mais lui, il est. Il était parti pour sa vie. À partir d'un certain temps, il adhérait complètement à l'esprit du kibbutz où il n'y avait pas d'argent, il y avait tout ça. Et il ne faisait pas de travaux des champs parce qu'il était demandé pour faire des conférences sur la musique et puis pour jouer, évidemment. Mais c'était de sa part une implication, comment dirais-je,
spirituelle.
Et sa femme, Maude, je l'ai très, très bien connue, on a même passé des vacances ensemble, et elle dit, si j'avais pas essayé si j'avais pas été ferme, il serait resté, véritablement.
Ah, d'accord.
Oui. Et c'est vrai, hein, il est...
Ben voilà, donc on voit Eliane Abrial, Maude, et sur la droite, je ne sais pas... qui...
Une célèbre antiquaire à Monaco, que tout le monde connaissait, Walpole Gallery, peut-être parmi d'entre vous le connaissent, ont connu.
Ah ben oui, mais bien entendu.
N'est-ce pas, voilà. Elle était très, très musicienne, elle avait un goût parfait, et elle m'a beaucoup aidée, justement.
Alors, on va reparler de votre présence maintenant et de vos souvenirs à l'orchestre. Tout à l'heure, Philippe Benner nous a parlé de ces séances d'enregistrement à l'Alcazar. Vous aussi, vous y étiez. Et je sais que vous avez rencontré la Callas.
Oui, là, c'est assez savoureux parce que moi, tu n'as pas connu l'Alcazar complètement percé le toit et où pleuvait dans le... Il
non,
pleuvait.
J'ai connu quand on faisait les enregistrements.
Mais après, donc la Callas est venue plus tard.
Le bâtiment
tombé en ruine. Il est tombé en ruine. Et donc, on enregistrait avec la Guilde. C'est ça,
oui.
La Guilde.
Je ne me rappelle plus. Il y a eu Erato qui a enregistré énormément.
Oui.
Et puis la Guilde, oui, peut-être. Oui. Oui.
Alors, pour compenser l'état vétuste des lieux, on a cru bon, le directeur a cru bon, c'est donc là, de dérouler le tapis rouge pour un peu masquer l'effet désastreux de l'établissement. Et donc, là, on a attendu longtemps la Callas. Elle est arrivée, assez hautaine.
Oui.
Et la présentation, elle a regardé les lieux, bon, elle a testé un peu l'acoustique des lieux. Et ça, je crois que ça a duré 10 minutes en tout. Elle a été tellement déçue de l'accueil,
de
l'endroit misérable, qu'elle a tourné les talons et elle est partie. On a dû enrouler le tapis rouge.
et ainsi, l'orchestre de Monaco n'a pas eu d'enregistrement
avec la Callas, oui.
Qui fréquentait pourtant Monaco avec Onassis.
Avec Onassis, oui.
Voilà, oui.
Il faut dire que la Callas, c'était un beau soleil.
Oui,
c'est un beau soleil. Voilà. Oui. Non, mais la Callas, elle est.
Il n'y avait
après...
pas de salle à cette époque-là pour recevoir quelqu'un à la hauteur de la Callas.
Alors, chère Eliane, je vais vous poser une question. J'allais dire, parmi les grands chefs d'orchestre, vous avez connu tellement de grands chefs d'orchestre. Est-ce que vous avez quand même deux, trois là qui ont marqué votre mémoire?
Et oui, quand même, Lorine Mazel.
Lorine Mazel, oui.
Un chef russe que j'ai beaucoup aimé parce qu'il dirigeait sans baguette, qu'avec les mains. Oui. Il s'appelait Yuri Temirkanov.
Temirkanov, oui.
Aronovitch aussi, qui était un chef.
Yuri
Aronovitch, oui.
Oui, oui.
Zubin Mehta est venu aussi dans
Zubin
les premières
Mehta,
années.
Oui, oui. Frubeck de Burgos,
oui.
Des noms connus, voilà.
Et lorsqu'on est sous la direction de chef comme ça, on est exalté à l'orchestre.
Absolument, oui. Et puis aussi, le lieu compte aussi beaucoup. Par exemple, ce qu'on a fait, là, c'était pour le Requiem de Berlioz à Berlin.
Oui.
On avait réuni les deux orchestres Monaco et l'orchestre de Berlin dans ce magnifique dôme, Berliner Dôme, où la famille princière
alors
était
ça,
là.
Alors ça, c'était déjà Ianovski.
C'était déjà Ianovski, c'était dans les années 2000.
Oui.
Et à cette occasion, j'ai été très émue de visiter cette petite église du souvenir, une église protestante.
Oui.
On a gardé la tour encore abîmé, où les gens viennent se recueillir, qui remémore les effets de la guerre.
Des grands souvenirs,
des grands souvenirs.
Mais là, on est avec Yanofsky, à l'époque un petit peu moderne. On va peut-être revenir à l'ancien, parce que je crois que Valérie... Voilà, nous avons des photos, je crois, une fois, où vous êtes avec Yehudi Menuhin, une fois avec Kirik Tekanawa. Est-ce qu'on peut montrer où vous êtes, là? On vous voit dans le fond.
Tout à fait au fond.
Parce que c'est au fond des violoncelles.
C'est la coutume à l'époque les nouveaux rentrés s'installent au dernier pupitre. Et puis, au fil des années, ils avancent.
Et alors, on vous voit brune à ce moment-là.
Oui, forcément.
Voilà. Ah, et ça, c'était... Oui. Vous vous souvenez, là, c'est Kirik Tekanawa? Vous souvenez de ce concert?
Tout à fait, parce qu'elle a vraiment, elle était impressionnante. Oui. Beaucoup de classe et un très beau timbre de voix que j'ai beaucoup aimé.
Et là, c'est dans la salle Garnier, je pense.
Bien sûr.
Et Menuhin aussi.
Et Menuhin, voilà. Oui. Et puis, je veux dire, j'ai été très bien accueillie par les collègues musiciens hommes. D'ailleurs, j'étais très protégée puisque mon mari était aussi à l'orchestre à ce moment-là.
Voilà.
J'étais très à l'abri.
Je pense que c'est ça qui est important. Et un jour, votre mari est parti en retraite et il a été remplacé par Jean Large, dont la fille est ici. Et l'année prochaine, elle nous portera des documents, parce que c'était non seulement, Mathé l'a appris ce matin, un merveilleux musicien que nous avons tous apprécié pendant des années et des années, mais il paraît un caricaturiste fameux, qui a caricaturé les chefs d'orchestre, ses collègues, et ça on ne le savait pas, et l'année prochaine on le découvrira grâce à sa fille.
Excusez-moi, je peux encore vous dire un souvenir quand même.
Vous êtes là pour ça.
Inoubliable,
le temps passe.
Oui, en 1989, on a joué Carmen à Bercy, à Paris.
Oui.
Et ça pendant plusieurs semaines. Oui. Donc c'était fabuleux parce que c'était l'orchestre n'était pas en fosse, en bas, mais au même niveau que la scène.
Ah, oui.
Donc ça a été un spectacle fabuleux pour tout le monde aussi.
Avec les chevaux qui passaient.
Oui, qui passaient tout à côté de nous. Il y avait tout un sentier sableux. Et c'était vraiment très, très impressionnant. Laurence Foster.
Comme Philippe Berner, vous avez fait des tournées aussi jusqu'au Japon.
Au Japon, oui, ça a été absolument merveilleux. Donc, Kyoto, Tokyo. Et c'est là que j'ai découvert les plus belles œuvres du jeune Picasso, le rose et bleu, dans le musée au Japon. Et j'ai été émerveillée par cette civilisation. Ces personnes tellement nombreuses, mais qui savent respecter juste le surface entre eux et pour pouvoir bouger très, très à l'aise, tout en étant extrêmement rapide. C'est un souvenir
de tournée. Oui. J'aimerais, parce qu'on arrive un petit peu à la fin, vous interroger sur le moment où d'autres femmes ont été engagées à l'orchestre. Donc, est-ce que ça s'est fait tout de suite après? Alors, c'était 1972 pour en arriver à vous, mais est-ce que ça s'est fait tout de suite après? Après, il y a eu des femmes?
Je crois que les nouvelles venues sont venues de Nice tout près, parce qu'au moment de la dissolution de l'ORTF.
Mais bien entendu,
il y a eu deux, trois niçoises.
Bien entendu, oui, il y a eu l'orchestre, il y avait l'orchestre de la radio à Nice.
Voilà, qui
et
a été dissous.
Quand l'ORTF a été dissous, effectivement, l'orchestre a été séparé. Certains sont allés à Cannes.
Nous sommes restés à Nice.
Vous êtes restés à Nice.
C'est moi qui ai hérité de l'orchestre.
Voilà.
Et donc, il y avait Jean Large qui était le hautbois solo de mon orchestre, et puis il a été pris ici. Mais. Je veux dire que les femmes, il y en a toujours eu à l'harpe. Il y a toujours eu une femme à l'harpe. Et donc, moi, quand j'étais dans l'orchestre, il y a une dame âgée qui est partie, et puis elle était prise par une Bretonne, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait.
Tu parles chez nous ?
Oui, à Monaco.
Christine Allard.
Christine Allard, voilà. Et donc, il y a toujours eu ça au début. C'était inévitable. Ça. Après, alors, il y a eu d'autres femmes.
Voilà. Et donc, quand l'orchestre de l'ORTF a été dissous, donc un certain nombre de femmes sont arrivées ici.
Voilà, c'était en 2 ans après moi. En 1973. Non, 1975, pardon.
1975,
voilà. Oui. Dont la femme de Lane Anderson.
Dont la femme de Lane Anderson.
Qui, hélas, n'est pas parmi nous aujourd'hui parce qu'il a encore eu un grave accident. Il est mobilisé. Décidément, il n'a pas beaucoup de chance. Notre
mais il
collègue.
Reviendra l'année prochaine. Oui. C'est avec sa femme. Donc.
Voilà. Là, je voudrais raconter une histoire. C'est que quand Van der Meurthel est arrivé de Paris, il a amené 3 Américains dans sa voiture. Il y avait Bob Martin, Len Anderson et pas Sidney Weiss. Sidney Weiss, c'est après. Mais un autre Américain qui était à l'orchestre, je ne me rappelle plus. Ah non, Patterson, c'était après. C'était un violon solo. C'est Larry Foster qui l'a engagé. Qui
et était, pardon, et Bob Martin, mais c'est lui qui a fait les photos.
Bob Martin, il a gagné des prix. Mais il était contrebassiste. Mais Remortel a fait rentrer les Américains dans l'orchestre. Oui. Mais il était très bon. Hein. Hélène, il était formidable. Il arrivait de Washington et tout ça.
Il nous racontera ça l'année prochaine. Oui, absolument. Vous savez, mes amis, on est arrivé au bout de l'heure que nous devions passer ensemble. Nos témoins ont plein de choses encore à nous raconter. Peut-être qu'ils reviendront. Est-ce que vous avez une ou deux questions à leur poser, peut-être? Hein? Voilà, vous avez Liane ici, vous avez Philippe Bender. Non, alors j'avais amené des enregistrements aussi, mais je pense qu'il est trop tard pour en passer. Mais je pense, et je me tourne vers la présidente, que ces séances sur l'histoire de l'orchestre sont vraiment très intéressantes, ont suscité tout au long de l'année vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis maintenant, les témoignages que nous pourrons avoir, regardez ce que nous avons entendu ce matin, des musiciens qui ont participé aux années modernes de l'orchestre, et il y en a plein d'autres, eh bien, feront que nous allons continuer ces séances l'année prochaine. Et donc, on vous y conviera. On vous remercie d'être venu ce matin, et je vais donner la parole à la présidente.
L'année prochaine, oui, on va continuer ce cycle de conférences. Je suis ravie que nous avons initié cette belle aventure de cette année. Nous l'avons, les conférences, c'est un privilège de nos membres, ceux qui soutiennent l'orchestre, bien sûr. Cette année, comme il s'agissait de l'histoire de Monaco, nous avons souhaité l'ouvrir au grand public. Je crains que l'année prochaine, nous serons obligés de les rendre le privilège des membres de l'association, mais nous vous tiendrons au courant ceux parmi vous qui n'êtes pas membres de l'association. En tout cas, un grand merci André, un grand merci Philippe, Ariane. Vivre ces moments avec vous, on y est presque. Hein. Ça fait 25 ans que l'association existe, donc certains moments, Janowski, etc., nous étions déjà là, en train de vrai déjà pour l'orchestre. Merci à tous ceux qui vont déjeuner. On va déjeuner au Yacht Club sur la terrasse, donc dernier étage. Et à l'année prochaine.
Ouais, merci.